tellement content de pouvoir apporter la parole ici. C'est tellement un plaisir à chaque fois que je viens ici. Je sens qu'il y a une ferveur, il y a une passion. Et à chaque fois, moi, une de mes choses préférées avant d'apporter la parole, c'est de discuter avec le pasteur invité, comme l'a dit pasteur Florian. Moi, je me balade un peu sur tous les sites. Et puis à chaque fois, de discuter avec Florian et qu'il me dise, je dis, OK, comment ça se passe ici à Châteauguay? Puis il me dit, j'ai la meilleure église au monde. Est-ce que c'est vrai ça ou pas? J'ai la meilleure église au monde et une église qui est en pleine croissance. C'est juste incroyable. Imaginez-vous juste le type de problème que vous avez, c'est qu'il faut des placeurs pour placer des personnes parce que des fois l'église est trop pleine. Combien savent que c'est un bon problème, ça? Amen. Alors tous ceux qui ont dit amen, impliquez-vous en tant que placeur. Passe décisive, Florian. Mais blague à part, je suis tellement content d'apporter la parole et de continuer cette thématique en chemin vers la résurrection, une thématique qui va nous mener jusqu'à Pâques. Et ce que je vous propose, c'est qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Combien a envie d'entendre la parole de Dieu ce matin? Ok, on est parti. Alors le titre de mon message ce matin, c'est « Peut-on réellement changer ?» Est-ce qu'il est vraiment possible de changer? Je sais pas si vous êtes comme moi dans cette salle, mais des fois, il y a des choses dans nos vies, des failles de caractère, des traits de caractère, des faiblesses qu'on a, qu'on aimerait qu'ils changent, mais ça change pas. Que mois après mois, année après année, on a l'impression que ça bouge pas, qu'on est toujours pris avec les mêmes luttes, les mêmes faiblesses, les mêmes insécurités, peut-être même dans cette salle, les mêmes addictions, et on a l'impression que année après année, on n'arrive pas à s'en sortir. Et parfois, on peut être rempli de découragement et se demander, est-ce qu'un jour, je vais finalement réussir à avoir la victoire sur cette faiblesse-là? Est-ce qu'un jour, je vais finalement réussir à avoir la victoire sur cette dépendance, sur ce trait de caractère-là, sur cette faiblesse-là? Moi, comme l'a dit pasteur Florian, je suis pasteur à Nouvelle Vie Longueuil et souvent à la fin de la réunion, en fait, comme sur chacun des sites, on offre la prière à ceux qui le veulent. Donc souvent, il y a des personnes qui s'avancent à la fin de la réunion et on est là pour prier pour eux. Et je me souviens qu'à un moment donné, il y a une dame qui s'est avancée pour que je puisse prier pour elle. Donc là, je lui demande, bonjour madame, pour quel sujet est-ce que je pourrais prier pour vous? Puis là, dans une honnêteté, dans une transparence renversante, elle me dit, pasteur, prier pour que Dieu change mon caractère parce que je suis plus capable de moi-même. À combien c'est déjà arrivé de ne plus être capable de lui-même? Et moi, ce que je lui ai dit, c'est je dis, madame, c'est parfait, mais par contre, je vais vous demander de prier aussi parce que moi-même, je suis plus capable de moi-même. Et ça nous arrive parfois de dire, je suis plus capable de moi-même, Seigneur, change-moi. Peut-on réellement changer? La Bible parle beaucoup de changement, des comportements qu'on devrait adopter en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, dans des passages comme par exemple Colossiens 3, versets 5 à 8, où Paul dit ceci. « Faites donc mourir tout ce qui dans votre vie appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder qui est une idolâtrie. Ce sont de tels comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Et vous-même aussi, vous commettiez ces péchés autrefois lorsqu'ils faisaient votre vie. Mais à présent, débarrassez-vous de tout cela, colère, irritation, méchanceté, insultes ou propos grossiers qui sortiraient de votre bouche. » Bienvenue à l'église ce matin. Ce genre de passage encourageant où tu te dis, ouais, plus facile à dire qu'à faire. Moi, ça me fait penser à ma mère où pendant que moi, j'ai grandi dans une famille nombreuse, on était six enfants. Et pendant l'été, elle avait la grandiose idée de nous faire faire des cahiers de vacances. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ça, les cahiers de vacances? Les cahiers de vacances, c'est la pire torture pour les enfants qui n'aiment pas l'école, c'est-à-dire moi. C'était qu'on avait des vacances d'été de plus de 2 mois. Et le soleil était là dehors, tous mes amis étaient en train de jouer au soccer, au foot, tout ça, c'était incroyable. Mais ma mère, elle me disait, non, ta vie est trop belle, Thomas, pendant ces 2 mois. Nous, on travaille, c'est difficile, donc on va te gâcher un peu la vie, on va te faire faire des devoirs, même si t'as pas de devoirs à faire à cause de l'école, parce que l'école est fermée. Et comme vous pouvez vous en douter, c'était pas mes moments préférés. À chaque fois, on était très turbulents avec mes frères, on n'aimait pas ça. Et ma mère, le pire, ce qui arrangeait pas, c'était que c'était pas la meilleure pédagogue ni l'enseignante la plus patiente au monde. Et je me souviens qu'à un moment donné, j'avais vraiment du mal à faire mes exercices de maths. J'ai toujours été nul en maths, peut-être pour ça que je suis devenu pasteur. Et j'avais vraiment du mal à faire mes maths et là, ma mère a su trouver les mots. Ma mère a su trouver les mots justes pour faire sortir mon potentiel de mathématicien qui était enfoui à l'intérieur de mon cœur. Elle a su trouver les mots justes. Elle m'a regardé et m'a dit en criant, « Mais c'est facile !» Et là, j'avais envie de lui dire, en fait, je lui ai dit, « Maman, c'est normal que c'est facile pour toi, t'as 44 ans, j'en ai 10. » Et parfois, si on est honnête, face à ce genre de verset-là, on peut être tenté de dire à Dieu, « Ok, arrête d'être grossier, arrête d'être méchant, arrête d'être orgueilleux, arrête d'être avare. » C'est facile à dire pour toi qui es Dieu. Pour nous qui sommes imparfaits, la barre, elle est trop haute. La barre, elle est trop, c'est trop exigeant d'être un chrétien, de se revêtir d'humilité, d'être patient, d'aimer les gens qui sont pas aimables. C'est trop difficile. Mais la bonne nouvelle pour nous ce matin, c'est que Dieu est un bien meilleur enseignant et pédagogue que ma mère. Est-ce que je peux entendre amen à ça? Et c'est qu'il nous donne des clés. Il nous dit pas juste c'est facile, débrouille-toi. Il nous donne des clés pratiques pour pouvoir réellement changer. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous allons regarder le livre de Colossiens, où Paul envoie une lettre à l'église de Colosse. Et cette lettre-là, elle est divisée en deux parties. La première partie de cette lettre-là, c'est l'objectif de Paul, c'est de leur rappeler leur identité, leur croyance, ce en quoi ils doivent croire. Parce que, vous savez, à chaque fois que Paul envoyait des lettres, c'était jamais juste pour leur donner des bonnes nouvelles de comment ça se passe, ma vie, tout ça. Non. Souvent, c'était pour corriger des croyances et des comportements qu'ils avaient. Et là, dans ce contexte-là, il y avait vraiment des croyances qu'ils avaient qui étaient totalement fausses. L'Église, les Colossiens faisaient face à deux types d'influences. Premièrement, il y avait l'influence du polythéisme. Pour la plupart de ces chrétiens-là, ils venaient d'un contexte, d'une tradition non-juive, et ils avaient grandi dans une culture totalement polythéiste, où ils adoraient plusieurs dieux. Et alors qu'ils s'étaient convertis au christianisme, Jésus était devenu juste une divinité de plus parmi tant d'autres, et ils craignaient encore les autres dieux dans la tradition dans laquelle ils avaient grandi. Donc ça, c'était une des influences auxquelles ils faisaient face. Et un autre type d'influence qui faisait face, c'était le légalisme. Parce qu'il y avait beaucoup de judéo-chrétiens, c'est-à-dire des juifs qui s'étaient convertis au christianisme, qui eux leur disaient, ok, là maintenant, avant t'étais un païen, t'étais pas dans la game, là t'es dans notre game, c'est bien, tu suis Jésus, faut que tu mettes ta foi en Jésus, mais pour être sauvé, c'est pas suffisant. Il faut que tu fasses les rituels de la Torah, il faut que tu participes à certaines fêtes et que tu fasses tous ces rituels-là pour pouvoir réellement être sauvé. Et bien que ces deux influences-là semblaient totalement opposées, elles venaient du même fond, du même problème. C'est que les Colossiens n'avaient pas réellement compris leur identité. Ils n'avaient pas réellement compris ce que Jésus était venu accomplir. Et c'est pourquoi Paul, dans les deux premiers chapitres, répondra à ces anges-là en leur rappelant leur identité, en leur rappelant ce que Jésus est venu accomplir, et particulièrement en Colossiens 2, versets 13 à 15, où il leur dira ceci. « Et vous, lorsque vous étiez morts dans vos offenses, dans l'incirconcision de votre chair, il vous a vivifié avec lui, nous ayant pardonné toutes les offenses, ayant effacé l'obligation qui était contre nous par les ordonnances, et nous était contraire. Et il l'a entièrement annulé, l'ayant cloué à la croix, ayant dépouillé les principautés et les autorités qu'il a publiquement exposées en spectacle, triomphant d'elles à la croix. » Paul répond à ces problèmes en leur disant que d'un côté là, Jésus, c'est le seul Dieu. C'est le seul Dieu qui existe. C'est le seul Dieu qui est réel et puissant. Et à la croix, il a dépouillé, il a humilié, il a mis en spectacle toutes les autorités. Donc, naturellement, vous devez être soumis à lui, à seulement le seul Dieu. Mais en plus de ça, vous n'avez pas à craindre qui que ce soit. Aucun ténèbre, aucune divinité extérieure. Parce que tout lui est soumis, tout est mis à ses pieds à la croix. Il a remporté la victoire parce qu'il est mort, mais il est également ressuscité. Donc ça, il règle le problème du polythéisme. Et il avance ça, il dit, mais à la croix, Jésus, là, ce qu'il a accompli, c'est qu'il a tout accompli à votre place. À la croix, il a pris la punition que vous et moi, on méritait pour nos péchés, pour nos offenses. Et en vivant la vie parfaite que vous et moi, il fallait absolument qu'on vive, mais qu'on n'était pas capable pour aller au ciel, en mettant notre foi en lui, nous sommes d'ores et déjà acceptés, pardonnés et rachetés. Tout est accompli. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Et ça vient tout résoudre les problèmes d'identité qu'ils avaient. Est-ce que je dois suivre plusieurs dieux? Est-ce que je dois faire des efforts? Il dit non, vous n'avez plus rien à ajouter. Ce que Christ a accompli, c'est suffisant. Vous n'avez pas besoin de faire des rituels ou toutes sortes de choses, de faire des efforts pour être sauvé. Jésus a gagné votre salut à votre place à la croix. Et ce qui est intéressant, c'est que Paul prend deux chapitres pour leur expliquer ça, avant de leur expliquer comment ils doivent se comporter. Parce que Paul savait une chose. Il savait que tu ne peux pas réellement changer sans premièrement comprendre ton identité, sans réellement comprendre qui tu es en Christ. Et c'est pourquoi mon premier point ce matin avec vous, c'est comment changer réellement, premièrement en découvrant ou en redécouvrant ton identité. Parce que ce qui détermine tes actions, ce sont tes croyances. Et si tu as les mauvaises croyances, ça va être impossible pour toi de porter du fruit. Quelqu'un a dit ceci, vos croyances deviennent vos pensées deviennent vos actions deviennent vos habitudes deviennent vos valeurs deviennent votre destinée. En d'autres termes, toute ta vie est basée sur tes croyances. Donc, t'es mieux d'avoir les bonnes. Parce qu'il nous est tous arrivé de croire des mensonges. Par exemple, qui n'a jamais entendu de la bouche de ses parents de dire « Avant d'aller te baigner, là, va pas te baigner après avoir mangé, il faut faire une sieste avant. » Qui a déjà entendu ça? Le nombre de siestes que j'ai fait pour aller me baigner, alors que scientifiquement, c'est faux. C'est même pas dangereux d'aller se baigner après avoir mangé. Donc, si t'es un parent dans cette salle, à partir de maintenant, tu n'as plus le droit d'utiliser cet argument-là sans mentir. C'est entre toi et Dieu. Ou encore, qui n'a jamais entendu « Bois de la soupe, ça fait grandir ». Encore une fois, le nombre de soupes que j'ai bu avant de me rendre compte que ça ne marchait pas. Puis ça, c'est pas grave en soi, parce que c'est juste des... Ce que j'ai perdu, c'est juste de boire des soupes qui étaient bonnes pour ma santé, puis de faire des siestes qui, au final, c'était pas la fin du monde. Mais parfois, on peut croire des mensonges qui ont une influence énorme sur notre vie, qui nous limitent et qui nous empêchent d'expérimenter la vie et les changements que Dieu aimerait opérer dans nos vies. Et les mensonges les plus difficiles à discerner, ce sont ceux qui ont des demi-vérités. C'est ceux qui ont un fond de vérité. Les mensonges, c'est un peu comme les blagues. Les plus efficaces, ce sont ceux où il y a un fond de vérité. Les mensonges où il y a quelque chose de... Il y a une base qui est vraie, mais ce n'est pas tout qui est vrai. Le mensonge qui nous font le plus de mal, le plus dur à discerner parfois. Le mensonge que tu es indigne, que tu ne seras jamais capable de réellement changer. Que tu es addict là, et tu vas finir ta vie addict. Que ton amour pour Dieu là, il n'est pas sincère. Que tu es juste un hypocrite. Il y a une part de vérité là-dedans à chaque fois, mais ce n'est pas toute la vérité. Oui, nous étions comme ça. Indignes ? Absolument. Incapables de changer par nous-mêmes ? Absolument. Impurs ? Absolument. Mais Paul nous dira ceci en Colossiens 1, 21-22. « Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés avec lui par le corps de sa chair, par sa mort, pour vous faire paraître devant lui saint, sans tache et irrépréhensible. » Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus indignes. Et surtout que par la puissance de la résurrection, il est possible pour nous de changer. Parce que Paul dira un peu plus loin, vous êtes ressuscités avec Christ. Ce qui veut dire que nous sommes unis avec Jésus. En d'autres termes, tout ce qui est arrivé à Jésus, c'est arrivé à toi. On est unis à Jésus. La victoire de Jésus est notre victoire. Ce qui veut dire que le péché n'a plus d'emprise sur nous. Le péché ne nous contrôle plus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi et par son Saint-Esprit nous donne le pouvoir de faire ce que nous ne pouvions pas faire avant, c'est-à-dire dire non au péché. La même force qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en nous. Est-ce que vous le réalisez ça? Il t'a donné la capacité de dire non à tes mauvaises habitudes, de dire non à tes mauvais comportements, de dire non aux tentations et de dire oui aux œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi. C'est une réalité extraordinaire à saisir et lorsque tu la comprends, ça fait toute la différence. Ça fait vraiment toute la différence. Mais il ne faut pas juste le savoir, il faut le croire. Parce qu'il y a une différence entre savoir et croire. Tu peux savoir que quelque chose existe sans croire que c'est vrai. Par exemple, moi je sais qu'il y a des gens qui pensent que la pizza hawaïenne est la meilleure pizza au monde. Ça je le sais, mais je n'y crois absolument pas. Et s'il y a des personnes qui, comme moi, savent que des ananas n'ont rien à faire dans une pizza, est-ce que je peux entendre un amen dans ce lieu? Une congrégation mature ce matin à Châteauguay. Il y a une différence entre savoir et croire. De la même manière, tu peux croire en Dieu, tu peux savoir que Dieu existe, sans nécessairement croire que tout ce qu'il dit est vrai. Il y a une différence entre croire en Dieu et croire Dieu. Il est possible de croire en Dieu sans nécessairement le croire lorsqu'il te dit qu'il est réellement le seul qui peut te combler. Qu'aucun plaisir de cette terre, aucun accomplissement de cette terre ne pourront réellement te combler. Qu'il est le seul à pouvoir satisfaire ton âme. Tu peux croire en Dieu sans nécessairement le croire lorsqu'il te dit qu'il t'aime comme la prunelle de ses yeux. Et que malgré les difficultés de la vie en ce moment, il ne t'a pas abandonné et t'abandonnera jamais. Tu peux croire en Dieu sans forcément le croire lorsqu'il te dit que tu peux réellement dire non au péché, que tu peux réellement marcher libre. Ce matin, je te pose la question. Est-ce que tu crois en Dieu ou est-ce que tu crois Dieu?
La réponse à cette question-là va tout changer. Lorsque tu deviens enfant de Dieu, toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce qui était vrai de nous avant ne l'est plus. Il faut que tu le crois et que tu acceptes ton nouveau statut si tu veux vraiment expérimenter des changements concrets et profonds dans ta vie. 1 Corinthiens 10:13 nous dit ceci. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Ce verset-là, là, on peut le voir comme « Dieu, ouais, c'est vrai que Dieu, c'est quand même un... il est bon quand même. Il... dans la tentation, il va nous aider, il va être là. Bon, des fois, on va perdre, des fois, on va gagner, mais il va être là. » Ou alors, on peut le prendre au pied de la lettre. Ou alors, on peut le croire réellement qu'à chaque fois que tu vas être tenté, Dieu va pourvoir un moyen d'en sortir. Dieu va te donner la capacité de réellement dire non. En d'autres termes, en tant qu'enfant de Dieu, nous n'avons plus le droit d'utiliser l'excuse « c'était plus fort que moi ». Ah, mais c'était plus fort que moi. Non, non, non. Par la puissance de la résurrection qui vit en toi, Dieu te donne la capacité de dire non. Il est tellement facile pour nous, des fois, de perdre du terrain dans nos combats parce que nos limites passées et nos péchés passés sont devenus notre identité. Ah, je suis comme ça. Je ne peux pas changer. Parfois même, d'aller plus loin, de faire de nos faiblesses notre nouvelle identité. Et cette identité-là peut même devenir pour nous une excuse pour ne plus changer. Par exemple, moi je connais des gens, ils me disent, moi Thomas, moi je suis pas du matin. Le matin là, moi, faut pas me parler, je suis pas parlable. Va pas me parler avant que j'ai pris mon café, sinon ça t'est risque et péril. Et en me disant ça, ils ont l'impression que ça va justifier tout leur comportement après. De dire, mais je t'ai prévenu, je suis pas du matin. Tu vas leur parler, puis ils sont hyper bêtes, ils sont impolis, limite vulgaires avec toi. Mais je t'ai dit, je suis pas du matin. Chaque fois, je suis en train de dire, mais ok, mais c'est pas parce que c'est difficile pour toi de te lever le matin que ça te donne le droit et l'obligation d'être bête avec le monde entier. Mais vous voyez ce qu'on fait? On prend une faiblesse, de dire, ah, moi, c'est difficile le matin. Et de dire, je ne suis pas quelqu'un du matin, donc viens pas me parler. Et viens pas me parler parce que moi, je suis comme ça, faut m'accepter comme je suis. Et la réalité, c'est que ça, on peut l'appliquer dans tous les domaines de notre vie. Et bien souvent, on l'applique dans plus de domaines qu'on pense. De dire, ouais, il y a des personnes qui me disent, ouais, moi, je suis quelqu'un, moi, j'ai un gros caractère. Moi, je suis comme ça, faut pas me chercher. Hein. Moi, si tu me provoques, là, tu vas savoir qui je suis. Hein. Je suis comme ça, faut m'accepter, je démarre au quart de tour, je suis comme ça. Vous connaissez des gens comme ça? Okay, dis-le pas à ton voisin si c'est lui. Hein, mais moi, faut pas me chercher. Moi, je suis comme ça, je suis nerveux. Hein. C'est dans mon sang, c'est dans mes gènes. Ou alors, hein, moi, tu sais, moi, je suis pas trop un... Moi, je suis pas un homme de prière, moi. Ça, c'est plus pour eux. Ça, c'est les pasteurs, tout ça. Moi, j'essaie de mettre en place des disciplines dans ma vie, mais j'arrive pas à prier. La prier chez moi, au bout d'un moment, je pense à mon épicerie et tout ça. Puis c'est correct. On peut à tout. Moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis pas quelqu'un de qui lit la Bible trop. Moi, j'écoute les prédications du pasteur. Là, ça me suffit. J'ai pas fait de grandes études. Je suis pas quelqu'un qui aime lire, pour qui c'est facile. Je suis comme ça. C'est pas grave. On fait de nos faiblesses notre identité. Et en faisant de nos faiblesses notre identité, ça nous donne une excuse. On ne s'attend même plus à changer. Pire même, on ne croit même plus que c'est possible pour nous de changer. Et ces mensonges-là nous limitent et nous nuisent bien plus que ce que vous pouvez penser ou imaginer. Il y a vraiment quelque chose qu'il faut réaliser grâce à la résurrection de Jésus. Et grâce à la puissance du Saint-Esprit qui vit en nous, on n'a plus besoin de se trouver des excuses parce qu'on peut vraiment changer. Est-ce que je peux entendre amen à ça? On peut vraiment changer. Nous pouvons être façonnés par Dieu jour après jour. J'ai réalisé que ça peut tellement être facile pour nous d'être manipulés. Je me souviens qu'il y a peut-être 3-4 semaines, je suis rentré chez moi et j'étais frustré. J'étais frustré, même anxieux, stressé. J'étais vraiment irritable. Puis heureusement que je vis tout seul parce que s'il y avait eu quelqu'un à côté de moi, j'aurais pas été une personne du soir. Moi, le soir, faut pas venir en parler. J'aurais été vraiment énervé, j'aurais été comme méchant. Et là, face à ça, j'avais deux options. Soit aller juste me changer les idées en regardant la télé, soit aller affronter le cœur du problème et d'aller dans la présence de Dieu. J'ai choisi la deuxième option. Et je suis allé dans la présence de Dieu. Et là, Dieu, d'une manière totalement surnaturelle, est venu me révéler qu'en fait, la raison pour laquelle j'étais anxieux, j'étais énervé, j'étais irritable, c'est parce que je croyais des mensonges identitaires sur moi. Et c'était vraiment fou. Hein. Et en un claquement de doigts, ça m'arrive pas tout le temps, hein, juste vous le dire, ça m'arrive pas tout le temps, mais en un claquement de doigts, il y a un poids qui s'est enlevé, et aussi bête que ça puisse paraître, j'étais en mode, ah, mais ça, c'est pas vrai, ça. Ça, c'est ce que je pense à mon sujet de cette situation, de cette dynamique-là, c'est pas vrai. Eh, c'est pas vrai. Ça aussi, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Eh, j'ai plus de raison d'être anxieux, en fait. J'ai plus de raison d'être énervé. Et au lieu de passer une soirée juste irritée à juste bâcher sur tout le monde, j'ai commencé à mettre de la louange et à élever le nom de Dieu, à être reconnaissant. J'ai passé la soirée dans l'adoration remplie de paix, remplie de joie. Parce que c'est ça qui se passe. Lorsque Dieu te révèle les mensonges identitaires sur lesquels tu crois, qui te nuisent, lorsqu'ils sont exposés, ils perdent toute puissance sur ta vie. Et ça, c'est ma prière pour toi ce matin, que Dieu te révèle par ce message-là des mensonges que tu crois sur toi, des mensonges qui te limitent dans ton couple, dans ton mariage, dans ton appel au ministère, dans ton travail, dans ta relation avec Dieu. Parce qu'une fois que ces mensonges-là sont exposés, ils n'ont plus de puissance. Dans ce monde de confusion, il est primordial pour nous de discerner le vrai du faux. Et le meilleur moyen de discerner le vrai du faux, c'est d'être rempli de la parole de Dieu. Vous connaissez sûrement cette anecdote-là où avec la multiplication des faux billets, les banquiers ont dû développer une stratégie pour essayer de remarquer lesquels étaient les vrais billets, lesquels étaient les faux billets pour éviter de se faire escroquer. Et leur stratégie, c'était pas d'analyser et d'étudier toutes les fausses contrefaçons des billets pour savoir c'est quoi les différentes options. Non, non, non. Ils ont tellement utilisé les vrais billets, tellement analysé les vrais billets, ils les connaissaient tellement par cœur, que dès qu'il y avait un faux billet qui arrivait, ils le sentaient, la texture, elle est différente, la couleur, elle est différente. Et ça, c'est notre objectif en tant que chrétien. Qu'on soit tellement imprégné de la parole de Dieu, que dès que la culture ou alors l'ennemi de ton âme essaye de te donner te faire croire des mensonges identitaires sur ce que tu es, sur ce que Dieu t'appelle à être et à faire, que dès qu'il essaye de mettre des mensonges, tu puisses détecter, de dire non. Ça, c'est pas qui je suis. Parce que Dieu, il a dit que j'étais quelqu'un d'autre. Et parce que je suis cette personne-là, je peux marcher libre. Est-ce que je peux entendre amen à ça? Ce n'est pas parce que tu n'es pas que tu ne peux pas devenir. Ton passé, là, il te limite pas. Et ton présent, en ce moment-là, ne te limite pas. Il n'y a pas de limite à ce que tu peux devenir avec Dieu. Ce que tu penses de toi ne doit pas être déterminé par ton expérience passée, mais parce que Dieu dit de toi. Avant de pouvoir changer, là, il faut premièrement croire que c'est possible pour toi de changer. Mais par contre, le fait que tu aies une nouvelle identité, que tu aies la capacité de dire non et de résister aux tentations, ça ne veut pas dire que ce sera facile. Et ça, c'est mon deuxième point. Réalise qu'il y a un combat. Parce que le Saint-Esprit que Dieu nous donne n'est qu'un dépôt, c'est qu'un acompte, c'est qu'un avant-goût de ce qu'on va vivre au ciel. Et sur cette terre, tant et aussi longtemps qu'on sera sur cette terre, il y aura un combat. Colossiens 3:4 nous dira ceci. Le jour où le Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez, vous aussi, avec lui, en partageant sa gloire. Que même, en gros, il dit, même si spirituellement vous êtes déjà ressuscité, il utilise le présent, c'est pas dans le futur, spirituellement vous êtes déjà ressuscité, mais vous êtes encore dans un corps charnel, imparfait, vous êtes encore dans un monde qui est contre Dieu. Il développera un peu plus sa pensée en Romains 8, 23, où il dira ceci. Nous aussi, nous soupirons au plus profond de nous-mêmes et nous vivons dans une certaine tension. Car nous avons seulement reçu l'Esprit divin comme un acompte. Ce cadeau de bienvenue offert par Dieu nous donne un avant-goût de la gloire future. Aussi, attendons-nous avec patience à être établis de plein droit fils adoptif de Dieu. Cette condition de vrai fils entraînera aussi pour nous la libération totale et la transformation de notre corps. Ça, c'est ce qu'on appelle en théologie le maintenant et pas encore. On est déjà sauvé, on est déjà racheté. Spirituellement, on est déjà ressuscité, mais il reste encore du chemin à parcourir avant que notre résurrection soit totale. Et avant que ça arrive, il y aura quand même un combat, il y aura quand même une tension. Parce que si Dieu nous a déjà délivré de la condamnation du péché, du pouvoir du péché où on peut résister, tant et aussi longtemps qu'on sera dans ce monde, nous ne sommes pas encore débarrassés de l'influence du péché. Et il y a un combat à mener. Et c'est pourquoi il y en a, tu es dans cette salle, puis tu es chrétien depuis de nombreuses années maintenant, et tu luttes encore avec certains péchés. Tu luttes peut-être encore avec certaines addictions, c'est parce qu'il y a un combat qui prend place. Moi, pendant longtemps, là, une des choses qui m'a comme empêché de grandir et me développer spirituellement, c'était le découragement. Parce que c'est comme si j'étais tellement découragé par mon manque de progrès spirituel. Je me disais, Thomas, regarde, t'es censé avoir reçu un cœur nouveau. T'es censé avoir reçu le Saint-Esprit qui est censé avoir changé tes désirs, tes affections. Mais regarde-toi, c'est toujours aussi difficile pour toi de prier. Faut que tu te disciplines. Normalement, si tu étais un vrai chrétien rempli du Saint-Esprit, t'aimerais ça, la prière, tout le temps, d'aller dans la parole de Dieu, d'aller dans la louange. Mais regarde ton cœur, t'es tellement pas patient, t'es tellement dur dans tes réponses. Est-ce que t'as vraiment changé? Et parfois même, je doutais de mon salut, de dire, j'ai mis ma foi en Jésus, mais j'ai l'impression là que la vie abondante que les prédicateurs qui parlent là, tu vas marcher dans la paix, dans la joie, un fruit de l'Esprit. J'ai pas l'impression que je l'expérimente tant que ça. Je doutais de mon salut. Et parfois même dans mes pires moments, je doutais de l'existence de Dieu. Tellement découragé par ma propre vie, parce que je me disais, mais Thomas, t'es sincère. Il me semble que t'es sincère, tu crois vraiment, tu mets vraiment ta foi en Dieu. Même des fois, tu jeûnes, tu fais des choses pour essayer d'être transformé par Dieu. Et il n'y a rien qui change dans ta vie. Peut-être qu'au final, l'œuvre de Dieu, elle n'est pas réelle dans ta vie. Peut-être ça se trouve, Dieu, il n'existe même pas. Dans mes pires moments, là, je doutais même de l'existence de Dieu à cause de ça. Mais en fait, j'avais la fausse pensée que du moment que tu mets ta foi en Jésus et que t'es né de nouveau, que t'es ressuscité spirituellement, tout va venir naturellement. Tu vas vouloir être dans la présence de Dieu, lire la Bible naturellement à chaque fois. Tu vas vouloir prier, tu vas aimer la prière, ça va jamais être une discipline pour toi. Tu vas aimer les gens, tu vas être patient, tu vas être rempli du fruit de l'Esprit naturellement. Parce que j'entendais les prédicateurs qui disaient « Ouais, c'est pas par tes propres forces que tu vas changer. » Genre, c'est parfait, c'est pas par mes propres forces. Ce qui veut dire, j'ai juste à être chrétien, spirituellement ressuscité, Dieu va changer mes désirs, j'ai aucun effort à faire et je vais être changé. Mais encore une fois, vous voyez ce que j'ai fait, hein? J'ai pris une vérité et j'en ai fait une semi-vérité. J'en ai fait une semi-vérité. Parce que c'est vrai qu'on peut pas changer notre cœur par nous-mêmes. Seul Dieu peut changer notre cœur. Mais pour qu'il change notre cœur jour après jour, qu'il renouvelle notre cœur jour après jour, ça prend de la discipline d'aller dans la présence de Dieu et de lui donner l'opportunité de le faire à chaque jour. Vous savez, l'évangile n'est pas en opposition aux efforts. L'évangile est en opposition au mérite. On ne peut pas être sauvé par nos efforts. Comme Paul l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas être sauvé par nos efforts de lire la Bible, prier, non. Seulement notre foi en Jésus peut nous sauver. Donc notre salut ne dépend pas de nos efforts. Mais par contre, notre sanctification va dépendre de nos efforts. Paul, qui est lui-même l'apôtre de la grâce, l'apôtre de la grâce par excellence, qui criait sur tous les toits à toutes les églises, qui disait, hey, c'est pas par vos œuvres, mais par la foi que vous êtes sauvés. Ce même Paul-là dira, hey, moi je traite durement mon corps. Ce même Paul-là, il dira, efforcez-vous d'être en paix avec les uns avec les autres. Il y a des efforts à faire et c'est un partenariat avec Dieu. Dieu, par la puissance de son Saint-Esprit, il te change, mais c'est un partenariat à faire. Il y a une discipline et il y a des efforts à faire. Ce qui veut dire que dans nos saisons où on se sent sec spirituellement, c'est pas une question de est-ce que je suis vraiment ressuscité spirituellement? Est-ce que je suis vraiment sauvé? Est-ce que Dieu m'a vraiment donné un cœur nouveau? Mais la question, c'est plutôt qu'est-ce que tu fais avec le cœur nouveau que Dieu t'a donné? Comme cette histoire d'un homme riche qui était un multimillionnaire, qui avait une super belle villa. Okay, il y a une photo qui va apparaître à l'écran. Le genre de villa qu'on aimerait tous habiter avec une belle piscine extraordinaire. Pas de pluie comme à Châteauguay, non, que soleil toute l'année. Il prenait du bon temps dans sa piscine, tout ça. Son garage, c'est même pas un garage, c'est un concessionnaire, que des voitures de sport, tout ça. Et il était tellement riche, tellement prospère qu'il a attiré la jalousie d'une des personnes de son voisinage. Et cette personne-là, c'était pas une personne du matin, ni de l'après-midi, ni du soir. Lui, il fallait pas le chercher. Et lui, il était tellement jaloux qu'il a commencé à le menacer. Il a commencé à le menacer, il lui a dit, tu sais quoi, un jour là, moi je vais rentrer chez toi. Je vais rentrer chez toi et je vais voler tous tes objets de valeur, je vais tout casser, je vais tout détruire. T'inquiète pas que je vais le faire. Et ce gars-là, on savait que fallait pas niaiser avec lui. On savait que lorsqu'il menaçait là, c'est sûr qu'il passait à l'action. Donc là, on s'attendait à ce que l'homme riche puisse mettre toute sa richesse en action pour pouvoir protéger sa maison, qu'il fasse installer un système d'alarme, qu'il appelle un service de protection, de garde, de sécurité, qui vont faire des patrouilles devant sa porte, qui verrouillent, qui mettent des caméras, tout ça. Mais non, contre toute attente, il est plus laxiste que jamais. Il sort de sa voiture pour aller au travail. Il ferme même pas la porte de son garage, même pas la porte de son portail. Il verrouille pas les portes. Il laisse les fenêtres ouvertes. Pas de caméra, pas de système d'alarme, rien. Et là, ce qui devait arriver arriva. L'homme qui est ni du matin, ni de l'après-midi, ni du soir, ni de la nuit, il rentre chez lui, il vole tout, il détruit tout. Et là, t'as envie de dire au gars, mais frère, tu t'attendais à quoi? Le gars te menace et tu laisses tout ouvert. C'est sûr et certain que tu vas payer le prix. J'aimerais vous dire que nous avons exactement la même pensée lorsqu'on ne protège pas le cœur nouveau que Dieu nous a confié. Parce que la parole de Dieu, elle nous dit, il y a quelqu'un qui est là pour nous voler et détruire. Il y a quelqu'un qui est là pour voler ta joie, voler ta paix, voler ta relation avec Dieu, voler ton mariage, voler ton futur, voler ton ministère. Et il y a un combat qui est là, et parfois même le plus grand ennemi, c'est même pas l'ennemi, c'est nous-mêmes. On se vole nous-mêmes. Et il y a un combat à mener. Et il y a des choses qu'on doit faire pour protéger le cœur nouveau que Dieu nous a donné. C'est pourquoi Proverbe 4, 23 nous dira ceci. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Si c'est de notre cœur que viennent les sources de la vie, on doit être extrêmement vigilant à ce qu'on y laisse entrer, à ce qu'on regarde, à ce qu'on écoute, aux pensées qu'on entretient. Un des problèmes avec ce verset-là, c'est que c'est un des versets les plus connus, les plus populaires, les plus instagrammables que tu mets. C'est un verset qui sonne bien avec une petite photo de profil. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. C'est un des versets les plus populaires, mais les moins appliqués de la Bible. Dans une génération où on n'a jamais été autant diverti, et diverti par des divertissements qui sont anti-bibliques. Et des fois, on s'étonne qu'on ne manifeste pas le fruit de l'esprit, alors qu'on nourrit nos pensées et nos cœurs de choses qui détruisent notre âme, qui détruisent notre relation avec Dieu. On surestimera jamais l'impact de ce vers quoi on tourne nos regards, notre attention, ce qu'on regarde, ce qu'on écoute. L'influence que ça a sur l'état de notre cœur, sur l'état de notre âme et notre relation avec Dieu. Et comme on vient de le voir, la santé de ton cœur est capitale. Jésus lui-même lui dira ceci en Matthieu 15, 19. Car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées, qui mènent au meurtre, à l'adultère, l'immoralité, au vol, au faux témoignage, au blasphème. Tous les comportements qu'on a dans nos vies, qui déplaisent à Dieu et même qui nous déplaisent, ils viennent de notre cœur. C'est pour ça que Dieu, il n'est pas intéressé par changer ton comportement. Ce qu'il veut, c'est changer ton cœur. Parce qu'à l'heure qu'il va changer ton cœur, le reste va suivre. Est-ce que je peux entendre amen à ça? Et encore une fois, Paul ne nous laisse pas comme ça de dire « Ok, bah ça y est, mon cœur, il faut que Dieu me le change, mais comment ?» Il nous donne la solution et c'est mon troisième et dernier point. Comment changer? En t'affectionnant aux choses d'en haut. Colossiens 3, 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, donc on a compris, on est tous ressuscités spirituellement déjà avec Christ. Cherchez les choses qui sont en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses qui sont en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ce qu'il nous dit là, c'est vous qui êtes déjà ressuscité là spirituellement, mais qui devez encore vivre avec les réalités terrestres. Ce qu'il faut que vous fassiez là, c'est que vous centrez vos pensées sur les réalités d'en haut et non sur celles de la terre. Les réalités d'en haut, qu'est-ce que c'est ? Les réalités d'en haut, là, c'est que si tu es enfant de Dieu, si tu as placé ta foi en Jésus, la fin de ce monde n'est pas la fin pour toi. Qu'après cette vie-là, il y a une vie qui t'attend, une éternité, un monde rempli de joie, d'amour, de fête, de rire, un monde qui va faire paraître tous tes plus grands plaisirs et bonheurs expérimentés dans ce monde comme étant dérisoire. Un monde où tu vas pouvoir voir Dieu face à face, sans filtre. Un monde où on va pouvoir être libre. Libre de la maladie, libre de l'influence du péché, libre d'addiction, libre de combat, tout parfaitement. Question pour vous. C'est quand la dernière fois que vous avez pensé au ciel avec anticipation? Je ne parle pas de ta pire journée de la semaine, là, où c'est dimanche soir et tu n'as pas envie de retourner à la job demain et tu dis « Seigneur, reviens aujourd'hui ». Non, non. Je ne parle pas de ces moments-là. Je parle de moments où tu dis « Seigneur, j'ai des rêves. J'ai des aspirations, j'ai une femme, j'ai un mari. On s'aime, on a des projets, mais qu'est-ce que j'ai hâte d'être au ciel avec toi? Qu'est-ce que j'ai hâte d'être là avec tous les croyants et t'adorer, te servir, vivre avec toi dans cette nouvelle terre qui va être... Hey, j'ai hâte. C'est quand la dernière fois que tu as pensé à ça? Paul, il dit, pensez à ça régulièrement. Affectionnez-vous à ces choses-là. Mais les réalités célestes, c'est pas juste ça. C'est aussi comment on a accès à cette éternité-là. Qu'on a accès à cette éternité-là, pas par nos mérites, mais par la grâce de Dieu. Que ce Dieu-là, il a tout accompli pour nous. Qu'il est mort à la croix, alors qu'on méritait rien, alors qu'on l'a offensé, il a répondu à nos offenses par un cadeau. Par la grâce, par l'amour. Es-tu encore émerveillé par ces choses-là? L'apôtre Paul, il dit, affectionnez-vous de ces choses-là. Émerveillez-vous beaucoup plus de ces choses-là que des plaisirs terrestres. Est-ce que ça t'émerveille encore, ça? Est-ce que ton salut t'émerveille encore? Est-ce que le privilège que Dieu te donne de pouvoir le servir et faire avancer son royaume, est-ce que ça t'émerveille encore? Je vais vous faire une confidence ce matin. Moi, ça m'est arrivé plein de fois, plusieurs fois en tout cas, d'entendre le prédicateur comme ça, en feu sur le stage. Est-ce que t'es émerveillé de ton salut? Est-ce que t'es émerveillé de tout ce que Dieu t'offre? Et j'étais assis à ma place, rempli de honte et de culpabilité. Parce que si j'étais honnête, la réponse à cette question-là, c'était non. Si je suis honnête, là, on va dire la vérité, là, je suis plus tant émerveillé. Des fois, c'était à cause de défis, de problèmes, de difficultés, d'épreuves que je vivais. Et je disais, si je suis honnête avec toi, pasteur, là, ce qui me préoccupe beaucoup plus, là, c'est plus, c'est pas tant, hey, merci Seigneur, c'est plus, t'es où Seigneur, parce qu'en ce moment-là, c'est difficile. Ou des fois, c'était juste, j'avoue que je suis plus émerveillé parce que je suis dans une apathie spirituelle où je nourris mon âme de choses que je devrais pas, puis ça m'empêche même de m'émerveiller. Et c'est comme si j'avais une frustration même pour ces pasteurs-là. Est-ce que t'es émerveillé? Dans ma tête, je me disais, ok, je suis pas émerveilleux, so what? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me forcer à être émerveillé? Émerveille-toi, Thomas. Je peux pas me forcer à être émerveillé. C'est pas quelque chose que tu fakes. Ça va, toi, aujourd'hui? Ouais, je suis en train de m'émerveiller à Dieu. Non, c'est pas quelque chose que tu fakes. Qu'est-ce que je fais avec ça? Vous connaissez l'expression peut-être qui dit « Le cœur veut ce qu'il veut ». Tu peux pas choisir ce que ton cœur veut. Si t'aimes ça, tu peux pas te forcer à ne plus l'aimer. Si j'aime pas la pizza hawaïenne, je peux pas me forcer à l'aimer. Le cœur veut ce qu'il veut. J'aimerais te dire que encore une fois, cette expression-là, c'est une semi-vérité. Parce que ce que le cœur veut plus que tout, c'est de ce qu'il a été nourri. Ce que le cœur veut le plus, ça, c'est de ce qu'il a été nourri. C'est un peu comme ton feed Netflix. Que ça soit sur Netflix, sur Prime Video, sur YouTube. Je sais pas si t'as remarqué, hein, mais plus tu vas regarder des films d'action, plus il va te proposer des films d'action. Plus tu vas laisser le YouTube contrôlé par tes enfants, plus les vidéos qu'il va te suggérer, c'est des vidéos de dessins animés. Pourquoi? Parce qu'il te nourrit toujours plus de ce que tu consommes pour que tu puisses rester le plus longtemps sur la plateforme. J'aimerais te dire que ton cœur fonctionne un peu de la même manière. Et en ce moment, ce que tu désires le plus dans ton cœur et dans ta vie n'est qu'un reflet de comment tu nourris tes pensées. C'est pas pour rien que les compagnies publicitaires sont prêtes à payer des millions et des millions de dollars pour un spot publicitaire de seulement 30 secondes. C'est parce qu'ils savent qu'une fois qu'ils ont semé l'idée, une fois qu'ils commencent à semer l'idée, une fois, deux fois, trois fois, les auditeurs qui ont vu cette publicité-là vont leur rapporter bien plus que ce qu'ils ont investi. Pourquoi? Parce que ce que le cœur veut le plus, c'est de ce qu'il a été nourri. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dira ceci. Nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Paul associe directement le fait de nourrir comme il faut ses pensées à la présence de Dieu que tu expérimentes à chaque jour. Comment tu nourris tes pensées? Tu veux être plus proche de Dieu, tu veux aimer la prière à nouveau, tu veux être émerveillé par la grandeur de Dieu à nouveau. Change la manière dont tu nourris tes pensées. Voici ce que le théologien John Piper a dit. Si vous ne ressentez pas de fort désir de manifestation de la gloire de Dieu, ce n'est pas parce que vous avez beaucoup bu et que vous êtes rassasié. C'est parce que vous avez grignoté si longtemps à la table du monde que votre âme est remplie de petites choses et qu'il n'y a plus de place pour les grandes. Dieu ne vous a pas créé pour cela. Il y a un appétit pour Dieu en vous. Il a seulement besoin d'être réveillé. Plus tu te nourris de choses spirituelles, plus ton cœur il va vouloir des choses spirituelles. Une autre expression pour vous, qui celle-là, elle est vraie de vraie. Vous connaissez l'expression qui dit « l'appétit vient en mangeant ». Dans le monde spirituel, ça n'a jamais été aussi vrai. Ceux qui ont le plus faim et soif de la présence de Dieu, ce sont ceux qui se nourrissent le plus. C'est un paradoxe, parce que normalement, plus tu te nourris, moins t'as faim. Mais dans le royaume de Dieu, c'est inversé. Plus tu te nourris de la parole de Dieu, plus tu te nourris de la présence de Dieu dans la prière, en venant à l'église, dans la communion fraternelle, dans les groupes, plus tu vas avoir faim et soif de la présence de Dieu. Mais l'inverse est aussi vrai. Moins tu te nourris de la présence de Dieu, moins tu te nourris tes pensées de choses spirituelles, moins tu vas avoir d'affection pour ces choses-là. T'as remarqué que moins tu pries, moins t'as envie de prier? parce que le cœur veut de ce qu'il est nourri. C'est pourquoi la tendance peut être inversée. C'est une bonne nouvelle ce matin. Si tu es là ce matin et tu dis, Thomas, je ne suis pas émerveillé. J'avoue, je suis comme toi à l'époque. Je ne suis pas émerveillé par Dieu en ce moment. Je ne suis plus émerveillé par mon salut, par la grâce que Dieu m'a offert. Il y a la louange, j'ai l'impression que c'est juste du karaoké. Pour moi, ça ne me fait plus rien. Je ne suis plus émerveillé. Premièrement, ne culpabilise pas. Ne culpabilise pas, parce que ça, c'est la pire chose à faire. Parce que là, c'est un cercle vicieux si tu culpabilises. Tu vas culpabiliser, tu vas dire, ok, je suis plus émerveillé, donc je ne vais pas être hypocrite, donc je vais attendre de m'émerveiller à nouveau avant de pouvoir à nouveau être sincère dans la présence. Non, ne culpabilise pas, parce que tu n'es pas responsable de ce que tu ressens. Par contre, tu es responsable de ce que tu fais avec ce que tu ressens. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu peux t'approcher avec sincérité, avec authenticité et de dire, Seigneur, en ce moment-là, si je suis honnête avec toi, je suis plus émerveillé. J'ai perdu la joie de mon salut. J'ai perdu l'amour pour toi, l'amour pour les gens, l'amour pour ton œuvre. En ce moment, je suis juste irritable, impatient. En ce moment-là, je me sens vraiment loin de ton cœur. Mais Seigneur, je ne veux pas écouter mon âme. Je veux parler à mon âme. Je veux dire, ce ne sera pas la fin pour moi. Et je veux venir m'abreuver dans ta présence. Parce que en me nourrissant de ta présence, toi, tu es capable de changer mon cœur. Tu es capable de changer ma détresse en paix, mon anxiété en paix, ma tristesse en joie, ma tiédeur en passion spirituelle. Tu as ce que je m'entends amène à ça. Dieu, il est capable de le faire dans ta vie. Mais pour ça, il faut que tu t'approches de lui. Pour ça, il faut que tu t'approches de lui. Je dirais, je ne vois pas mon état actuel là comme un signe que ton œuvre n'est pas réelle dans ma vie. Non. C'est juste un signe que je dois revenir à toi. La tendance peut être émerveillée, peut être inversée. Il y a un émerveillement qui dort en toi en ce moment, qui a juste besoin d'être réveillé. Vous savez, la raison pour laquelle Paul a donné, avant de donner la longue liste de comportements à changer, de revêt-toi de ça, change ci, change ça, la raison pour laquelle avant toute chose, il a dit affectionne-toi aux choses d'en haut, c'est parce qu'il savait que alors que tu t'affectionnes aux choses d'en haut, tu retrouves ton émerveillement. C'est parce que notre capacité à obéir à Dieu dépend grandement de notre émerveillement face à tout ce qu'il a fait pour nous. C'est pour ça qu'il le met en premier dans la liste, Paul. Très compliqué de marcher dans les voies de Dieu lorsqu'on n'est plus émerveillé par qui il est. De marcher dans l'obéissance, marcher dans la pureté, marcher dans l'intégrité, lorsqu'on est indifférent à la grandeur de ce que Dieu a fait pour nous. Beaucoup plus facile, au contraire, d'être patient envers les gens quand on est émerveillé de la patience de Dieu envers nous. Beaucoup plus facile, par contre, de pardonner les gens lorsqu'on est émerveillé par la grandeur du pardon de Dieu envers nous. Notre capacité à obéir dépend grandement de notre émerveillement face à tout ce qu'il a fait pour nous. Mais cet émerveillement-là, tu ne peux l'avoir seulement si tes yeux sont fixés sur les choses d'en haut et non sur les choses d'en bas. Regarde en haut. Est-ce qu'on peut donner une ovation au roi des rois, au Seigneur des seigneurs? Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous. Je te prie pour chacun d'entre nous. On vient avec humilité ce matin devant toi te dire, Seigneur, on a besoin de toi. On a besoin d'être renouvelé, Seigneur Jésus. On veut être émerveillé par toi, Seigneur Dieu, parce qu'on sait qu'alors qu'on est émerveillé par toi, alors qu'on se nourrit de ta présence, qu'on est renouvelé de jour en jour, le reste va suivre, les victoires vont suivre, les libérations vont suivre, la paix va revenir, la joie va revenir, la passion, la foi va revenir. Alors Seigneur, on veut simplement s'approcher de toi et te dire qu'on t'aime, te dire que toute la gloire te revient, te remercier pour la croix, te remercier pour ton pardon, te remercier pour ta présence, te remercier pour ta fidélité et ta patience envers nous. Seigneur Dieu, nous qui étions pécheurs, toi tu es venu nous chercher, tu as répondu à nos offenses par ta grâce, Seigneur, et ce matin on veut te célébrer, ce matin on veut te donner toute la louange et l'honneur qui t'est dû. Je te prie pour toutes les personnes qui sont dans ce lieu, Seigneur Jésus. Je te prie, mon Dieu, pour un déclic spirituel ce matin. Que la tiédeur puisse se transformer en passion. Que l'endormissement puisse se transformer en réveil spirituel qui va porter un fruit non seulement dans leur vie, dans leur couple, dans leur famille, dans leur travail, dans leur entourage, Seigneur Jésus. Viens nous réveiller, Seigneur Dieu, que si on est apathique spirituellement, Seigneur Dieu, que s'il y a des choses qu'on doit te remettre, s'il y a des choses, des habitudes peut-être qu'on doit changer pour passer plus de temps dans ta présence, Seigneur Dieu, viens les révéler maintenant. Que s'il y a des mensonges identitaires qu'on croit au sujet de nous-mêmes, qui limitent l'œuvre que tu veux faire dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos familles, dans notre appel, dans nos ministères, que tu puisses les révéler maintenant. Seigneur Jésus, on veut marcher libre, Seigneur Dieu, parce qu'on est déjà ressuscité spirituellement et on veut se comporter comme des fils et des filles de Dieu. Seigneur Jésus, merci de ce que tu ne nous laisses pas sans issue, sans réponse, sans solution. Merci de ce que tu es là avec nous et que tu es la solution suprême. Dans le nom de Jésus, j'ai prié et tout le monde dit Amen et Amen. Est-ce qu'on peut se lever et donner une ovation au Seigneur ?